Bonsoir. Merci d'être venu avec nous ce soir réfléchir, travailler, penser. Cette séance a lieu dans le cadre des activités du passage d'abord, j'en dirai quelques mots dans un instant, mais aussi en relation avec les rencontres de Sophie qui commencent ce soir ou qui continueront demain. Vous avez encore quelques programmes qui existent. C'est au lieu unique à partir de vendredi midi, demain, jusqu'à dimanche soir. Et le thème, c'est « Habiter la nature ». Il y aura des philosophes, mais aussi ethnologues, des poètes, des scientifiques, etc., qui parleront. Ce soir, nous avons le plaisir de recevoir Francis Wolff, qui est professeur émérite à l'École normale supérieure, après en avoir été directeur adjoint, directeur du département de philosophie. Il est spécialisé en philosophie antique. Il a publié un bouquin sur Socrate qui a eu de nombreuses rééditions. Et après avoir travaillé parallèlement à son travail sur la philosophie antique, il a progressivement étendu sa réflexion à la philosophie plus générale, notamment avec un livre qui a été un peu fondateur de cette pensée, « Dire le monde », qui a son versant musical. Et tous ceux qui adorent la musique, je vous conseille vivement de lire « Pourquoi la musique », qui est paru en 2015 et qui est vraiment une réflexion sur la musique extrêmement intéressante. Et par la suite, il a publié un certain nombre d'ouvrages qui sont des analyses du monde contemporain et qui nous concernent bien plus, qui sont plus en rapport avec ce qu'il va nous dire ce soir. « Notre humanité » en 2010, « Trois utopies contemporaines » en 2017, « Il n'y a pas d'amour parfait » en 2016 et le livre à partir duquel ce soir il va réfléchir, qui vient d'être publié, « Plaidoyer pour l'universel », édité chez Fayard et que vous trouverez aux rencontres de Sophie, à la librairie des rencontres de Sophie ou dans toutes les bonnes librairies. L'objectif de cet ouvrage de Francis Wolff, c'est d'être un plaidoyer pour l'universel. Il s'alarme, comme sans doute beaucoup, devant la multiplication des radicalismes, la multiplication des particularismes, devant la relativité généralisée des principes. Plus rien n'est vrai, plus rien n'est objectif, il n'y a plus de valeur transcendante et c'est au gré des différentes options, des différents partis, des différentes croyances qu'il faudrait vivre. Il essaye de montrer qu'il y a d'autres universels ou d'autres universaux, je ne sais pas ce qu'il faut dire, Dieu, l'homme, la nature, et que sans doute il y a des divergences entre ces trois positions. C'est ce qu'il va développer tout à l'heure. Je ne voudrais pas lui ravir la parole, puisqu'il le dira infiniment mieux que moi, puisque j'y ai découvert énormément de choses. Chacune a ses avantages, chacune a ses divergences. Ce qui est intéressant, c'est que à partir de cette volonté de réintroduire un nouvel humanisme, il défend l'homme comme un être de dialogue. C'est à partir de cela qu'il reconstruit une nouvelle façon de voir le monde, une nouvelle anthropologie. Et c'est à partir du moment où l'on accepte de considérer l'autre comme notre égal et d'avoir avec lui une certaine réciprocité que l'on peut penser une science, que l'on peut penser une morale, que l'on peut penser une vie commune. Il n'est pas chrétien, il ne défend pas des positions religieuses, il est même très interrogatif à l'égard du christianisme, il le dit dans son livre, on en parlera peut-être. Il a rédigé un certain nombre d'ouvrages en dialogue avec un dominicain, le père Gaget, sur le mal, et j'avoue que personnellement j'ai beaucoup appris en lisant l'article qu'il avait rédigé sur le mal dans les notions de philosophie, et ça m'a servi beaucoup quand j'ai dû faire des cours de philosophie pour des théologiens, car il a toujours une pensée qui interroge les croyants et qui demande aux croyants de revoir leur position à partir d'un raisonnement proprement philosophique. C'est pour ça que c'est extrêmement intéressant de l'entendre ce soir défendre ses positions. Même si nous ne sommes pas d'accord, nous avons à creuser à partir de ce que nous pensons en écoutant d'autres positions. Merci Francis Wolff de nous faire partager votre réflexion.
Merci Jean-Michel de ta présentation. Jean-Michel et moi, nous sommes connus il y a bien longtemps et dans des circonstances académique et même institutionnel, dont je garde un très beau souvenir. Juste avant de commencer, en effet, deux précisions. Je ne suis évidemment pas de culture chrétienne, je suis de culture juive. J'ai eu une éducation dans le judaïsme et puis j'ai abandonné progressivement cette, sans renier quoi que ce soit de ce qui me relie par la mémoire et notamment par la mémoire de l'essentiel de ma famille qui a été déportée, comme on dit, qui n'est jamais revenu des camps. Donc il y a pour moi une fidélité. Je pense que le mot foi n'a pas tout à fait le même sens dans le christianisme et dans le judaïsme, et qu'en particulier dans le judaïsme, la foi c'est plutôt la fidélité que l'adhésion à un Dieu personnel comme dans le christianisme. Enfin, de ces questions, il ne sera pas directement question ce soir, mais Jean-Michel a bien raison de rappeler que les questions qui sont au ton centre de, je pense, de la philosophie ou de l'interrogation au christianisme, et peut-être même du catholicisme, et puis que signifie catholique, ça signifie universel. Donc ce que je défends, c'est un universalisme, et il me semble qu'aujourd'hui, l'universalisme, qui est un autre nom de l'humanisme, il faut essayer de le fonder sur autre chose que sur Dieu ou sur la nature, pour diverses raisons dont certaines sont historiques et dont d'autres sont plus généralement philosophiques. Il faut essayer de savoir si on peut fonder l'humanisme sur l'être humain, et c'est ce que je m'efforce de faire, en défendant en effet... Je suis trop loin, trop près ? Trop loin. Bon, voilà. Mais alors, si je m'excite... voilà. Mais ce n'est pas tellement de cela que je veux parler, même si Jean-Michel a bien fait de dire que je défends en effet un certain humanisme fondé sur des relations d'égalité et de réciprocité, que j'essaye de fonder sur la définition de l'homme. En tout cas, je défends quelque chose qui s'appelle l'humanisme. Et la première question qui peut se poser, c'est de savoir ce qu'on entend par humanisme. Humanisme, tout le monde se revendique ou non de l'humanisme. Humanisme, moi, quand j'ai fait mes études de philosophie, il n'y avait rien de plus mal vu que de se dire humaniste. Toutes les grandes philosophies des années 60 et 70 du siècle dernier se disaient anti-humanistes. C'était... considéré comme ringard, soit considéré comme ce qu'on disait l'humanisme bêlant. Je ne sais pas si ça te dit quelque chose, Jean-Michel, cette expression, l'humanisme bêlant. Voilà, et donc c'était très mal vu, parce que la notion d'humanité, elle dissimulait les fractures internes de l'humanité, disait-on. Alors, et aujourd'hui, si vous voulez, on peut se dire humaniste, alors... L'humaniste, il dira, bah oui, faut pas rejeter trop d'êtres humains dans la Méditerranée, quoi. Bon, ouais, pas trop quand même. Ouais. Faut être humaniste, quoi. Alors on dit oui, mais alors il faut être réaliste aussi. Bon, d'accord, il faut une bonne politique anti-immigration. Donc on est un peu humaniste, un peu réaliste. Bon, donc on ne sait pas trop ce que ça veut dire, et donc je vais en donner une définition un peu plus précise. Que je définis l'humanisme par au moins deux critères. C'est l'idée que l'humanité a une valeur intrinsèque, c'est-à-dire en elle-même, l'humanité est une valeur, est une source de valeur. Est-ce que c'est la seule source de valeur ? C'est à vous de répondre à cette question. En tout cas, c'est une source de valeur en elle-même. Et deuxièmement, si on est humaniste, on pense, on croit, on dit, on affirme, on défend l'idée que tous les êtres humains ont une valeur égale. Alors, ces idées ne se portent pas bien. C'est une idée que j'appelle affaiblie. Pourquoi elle est affaiblie aujourd'hui ? Pour diverses raisons. La première raison, c'est que l'idée même d'humanité ne se porte pas bien. Et par exemple, les limites de ce qu'est l'humanité ne sont pas très claires. Pendant des siècles, depuis l'Antiquité grecque, l'humanité était définie par deux limites. C'est ce que j'explique dans un de mes précédents livres qui s'appelait « Trois utopies contemporaines ». Par exemple, vous regardez chez les anciens, chez Aristote, chez les stoïciens, chez d'autres, et ça a été repris dans la tradition chrétienne, vous aviez d'un côté les êtres humains qui étaient une faune si je puis dire, d'êtres vivants, ou les Grecs disaient de zoa, d'animaux, la traduction est imparfaite, et qui étaient entre deux autres faunes. En dessous des humains, il y avait des bêtes, et au-dessus des êtres humains, il y avait des dieux. Et c'était deux limites. Et les êtres humains se définissaient par le fait qu'ils avaient en commun avec les dieux d'être rationnels, mais qu'ils avaient avec les bêtes en commun d'être mortels. Mais évidemment, cela définissait aussi très exactement non seulement ce qu'ils étaient, mais ce qu'ils devaient faire et ne pas faire. Ils ne devaient pas franchir ces deux limites, c'est-à-dire d'un côté s'abaisser au niveau de la bestialité, se devenir des bêtes, et d'un autre côté se hisser ou prétendre se hisser au niveau de la mortalité, de l'immortalité, pardon, des dieux. Il ne faisait pas pécher par hubris, par orgueil de se prendre pour des êtres immortels, ni s'abaisser au niveau des êtres ou des animaux irrationnels. Eh bien, ces deux limites, on l'a vu, on est en train de voir qu'elles n'ont plus beaucoup de sens dans notre modernité. Du côté des dieux, ou si vous préférez, du côté de Dieu, il y a d'une part, comme vous le savez, ce qu'on appelle une laïcisation de nos sociétés depuis au moins le XVe siècle. Et Dieu a cessé d'être ce par quoi on définit l'être humain. En tout cas, il ne semble plus que ce soit la limite à ne pas franchir. À preuve, il y a un courant aujourd'hui de plus en plus triomphant qu'on appelle le transhumanisme ou le post-humanisme, selon lequel, eh bien, c'est une affaire de technique et de gros sous. Google investit des millions de dollars dans un projet NBIC qui consisterait à terme de vaincre la mortalité, la maladie, pourquoi pas, on n'est pas contre, et la mortalité. Ça, je suis un peu moins contre, parce que moi, je dirais que l'homme n'est pas fait pour être mortel, mais il n'est pas fait non plus pour être immortel. L'immortalité, c'est long, hein, surtout à la fin. Hein, bon. Et puis, par ailleurs, imaginez-vous que ça ne finisse jamais, 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 jamais. Vous voyez, vous continuez à vivre, tout le monde meurt autour de vous, vos enfants, vos proches, etc. Vous continuez à vivre, mais c'est l'enfer, c'est l'enfer. C'est la définition de l'enfer sur Terre, pour moi. Bon, enfin, bref. Donc, il y a des gens qui prétendent nous rendre immortels. Et qui trouvent ça bien et qui investissent des dizaines de millions de dollars dans cette affaire, parce qu'au fond, c'est une question de technique, c'est une question de maintenance. Si le corps humain n'est qu'une machine, après tout, pourquoi ne pas le réparer indéfiniment et faire de nous des dieux? Donc, alors évidemment, il y a des endroits où Dieu continue d'être la source de toute valeur, de toute valeur. Mais en général, c'est un Dieu qui est plutôt autoritaire, qui donne ses dictates auxquels il faut obéir pieds et poings liés, et en tout cas il ne permet pas de définir l'être humain. Et en dessous de nous, bah écoutez, vous avez qu'à voir les modes actuelles, vegan, etc., ce que disent beaucoup de mouvements depuis une dizaine ou une quinzaine d'années, c'est-à-dire au fond il n'y a pas de différence essentielle entre les êtres humains et les autres êtres naturels, la barrière homme-animal est de plus en plus floue, etc. Donc l'idée même d'humanité ne se porte pas bien, et c'est une des raisons pour lesquelles l'humanisme est accusé souvent de tous les maux, et en particulier, peut-être qu'on y reviendra, d'avoir, à force de faire l'apologie de l'homme, eh bien, on a oublié la nature, par exemple. Et l'homme s'est cru le maître et possesseur de cette nature, et donc il a péché par hubris, en tout cas par anthropomorphisme. Quant à l'idée que tous les êtres humains sont égaux, c'est une idée, elle, qui subit les plus grands assauts de diverses sources, Politiquement, c'est une idée qui est en régression complète, l'idée que nous ne formons qu'une seule humanité. De plus en plus, on voit se former des replis identitaires partout dans le monde. Ce qu'on pensait être une forme de, d'abolition des frontières artificielles, etc., est en train de renaître. Des nouveaux mouvements xénophobes, des mouvements... Alors, et je dis politiquement, c'est à droite comme à gauche. À droite, nouvelles frontières, nouvelles xénophobies, nouveaux nationalismes partout sur la Terre, nouvelles ségrégations religieuses, que ce soit en Inde, en Birmanie, que ce soit au Proche-Orient, etc. Et à gauche, eh bien, nouvelles identités qui ne sont plus des identités de classe, mais qui sont des identités de genre, d'orientation sexuelle, qui devraient en quelque sorte suffire à définir ce que nous sommes. Donc c'est une idée qui ne se porte pas bien politiquement. Scientifiquement, je l'ai dit, le triomphe des neurosciences depuis le tournant du 21e siècle fait qu'on utilise plus ou moins les mêmes méthodes pour étudier l'homme et les autres êtres vivants. Et évidemment, spirituellement, je l'ai dit, il n'y a pas, semble-t-il, et ça va être un des termes de mon interrogation de ce soir, de fondement transcendant. Il semble qu'il n'y ait plus de fondement transcendant à ces deux idées, que l'homme, qui a une valeur propre à l'humanité, en elle-même comme humanité, et par ailleurs que tous les êtres humains soient égaux. Mais c'est le dernier point, c'est le dernier affaiblissement dont je voudrais partir, c'est-à-dire l'affaiblissement historique de cette idée. Alors, prologue, ce que j'appelle avant l'homme, avant la naissance de l'humanisme. Je ne vais pas remonter à loin, je vais remonter au moment où est née l'idée d'humanisme en Europe, en Occident. La principale faiblesse, je l'ai dit, c'est une faiblesse historique. Cette idée d'humanisme a une date de naissance en Occident. Je dirais, on peut même assister en direct à la naissance de l'humanisme. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut se promener dans un musée de peinture. Alors, vous allez dans un musée de peinture et vous commencez par les premières salles. Si vous allez dans une pinacothèque historique, les premières salles sont le plus souvent consacrées à la peinture médiévale, gothique ou byzantine. Les thèmes, comme vous le savez, sont religieux. Les tableaux sont destinés à l'identification des fidèles. Annonce faite à Marie, Vierge à l'enfant, Christ à l'agonie, descente de croix, représentation de saints, etc. Voilà quelques-unes des... les thèmes sont traités d'une façon conventionnelle. Les figures sont imposantes, magnifiquement dressées dans leur hiératisme majestueux, et ce sont des exhortations à fuir d'ici-bas le monde de la chair, de la corruption et du péché, pour se tourner vers l'au-delà, le royaume des cieux, le vrai monde, le seul monde qui vaut. Alors on passe, on change de salle et on va dans une salle plus loin et on passe aux salles consacrées à la Renaissance italienne. Alors les thèmes traités n'ont pas changé. Annonce faite à Marie, Vierge à l'enfant, Christ à l'agonie, descente de croix. Pourtant, tout se modifie. Tout se modifie, les êtres se mettent à être représentés dans leur humanité. La Vierge, l'enfant, le Christ et tous les saints adoptent désormais des postures plus humbles, des poses presque quotidiennes. Ils expriment des émotions qui trahissent leur humanité, leur simple humanité, la compassion, la tendresse, l'indulgence, l'amour, le chagrin. Destinataires de ces images, les fidèles ne sont pas seulement exhortés à l'attente de l'autre monde, de l'autre vie, la seule qui vaille. Leur vie terrestre vaut, elle aussi. Elle a une valeur en elle-même. Leurs propres émotions humaines quotidiennes sont les mêmes que celle de ces figures sacrées. Alors dans une salle plus loin, des figures profanes commencent à apparaître. des hommes et des femmes de leur temps, c'est-à-dire de notre monde. L'humanité la plus humble accède à la dignité d'être représentée, et même le corps humain. Voilà le nu, au prétexte d'Adam et Ève. Et puis Vénus, en écho à la sculpture antique. Le corps n'est plus la source de tous les vices, le lieu de la concupiscence, le signe du péché originel et de la déchéance humaine. Il est beau. Il est même le modèle de toute beauté. Et la vie terrestre, elle, vaut par elle-même d'être vécue. C'est l'époque dite de l'humanisme. On édite, on traduit, on popularise les textes de la littérature païenne et de la science grecque, de tout ce qui va s'appeler les humanités. Alors, Dieu n'a évidemment pas cessé d'exister. Il est toujours présent dans les cœurs et les âmes. La foi chrétienne n'a pas vacillé. Mais Dieu est là-haut. Et ici-bas, les hommes sont capables par eux-mêmes de connaissance, de savoir, de vérité ou de beauté. L'humanité est devenue source de valeur. Dès maintenant, elle en était même capable sans la révélation chrétienne, comme le prouvent les admirables œuvres des anciens que l'époque de la Renaissance s'efforce de traduire et de prendre pour modèle. Voilà comment on peut assister en direct, si je puis dire, à la naissance de l'homme comme valeur et comme source de valeur, pouvant rivaliser avec Dieu dans ce mouvement général des temps modernes qu'on a pu appeler, selon les doctrines et les contextes, laïcisation, sécularisation, désenchantement du monde. En tout cas, dès lors que la valeur de l'humanité et donc l'humanisme devient possible, elle ne s'est pas, cette idée, forcément imposée définitivement contre ce que j'appellerais le théocentrisme, c'est-à-dire l'idée que Dieu est seule source de valeur, que le Dieu, en tout cas des Écritures sacrées, est la seule source de valeur. Depuis le XVe siècle, l'humanisme a subi bien des vicissitudes, et c'est ces vicissitudes que très rapidement je voudrais esquisser devant vous. Après son apparition sur le théâtre de l'histoire occidentale, son histoire peut être comptée en deux actes et quatre tableaux. Alors, le drame que j'appelle des temps modernes, le drame de la modernité, il se déroule lui-même en deux temps, en deux scènes successives. La première se passe entre le XVe et le XVIIe siècle et présente l'opposition entre deux valeurs absolues. C'est ce que j'appelle le dilemme tragique du christianisme, théocentrisme ou anthropocentrisme. La question est de savoir s'il y a place ici-bas pour d'autres valeurs que celles de l'au-delà, ou si seuls les textes sacrés sont source de valeurs. Mais attention, le conflit est interne au christianisme. La révélation chrétienne n'est pas mise en doute. Ce qui est en question, c'est de savoir si l'homme est valeur seconde, mais bien réelle. Par conséquent, si tous les hommes se valent par Dieu et devant Dieu, puisqu'ils sont tous également son œuvre. Cette position, c'est celle qu'on appelle de l'humanisme théiste. C'est la position soutenue dans la fameuse controverse de Valladolid à propos de la conquête des Indiens, position soutenue par Bartholomé de Las Casas lors de la conquête de l'Amérique. Mais la position à laquelle elle se heurte, c'est la position de Sepúlveda, qui incarne le christianisme traditionnel dominant, qui est anti-humaniste. Cette position repose plus ou moins sur le raisonnement suivant. Le Dieu révélé des Écritures est la valeur absolue et seule source de valeur. Ne valent donc que les humains qui l'ont reconnu et ont admis sa parole. Nous le reconnaissons, mais ce n'est pas le cas de tous. Nous, c'est-à-dire les pieux, les aimants Dieu, les craignants de Dieu, nous sommes donc justifiés à faire la guerre aux mécréants pour imposer sa loi, à réduire en servitude, c'est une expression du pape Nicolas V, les infidèles, ennemis de la vérité, ou à défaut, à les convertir, de gré ou de force, à la vraie foi, pour sauver leur âme, comme c'est d'ailleurs leur intérêt. Alors, cet anti-humanisme théiste a inspiré longtemps le christianisme. Et je vous ai dit, lors de la conquête de l'Amérique, c'est la position chrétienne soutenue par Sepúlveda et le pape Nicolas V. Il inspire aujourd'hui une partie de l'islam. D'un autre côté, il y a le christianisme humaniste. Il repose sur la même première prémisse. Mais les déductions sont différentes. Le Dieu révélé est la seule source absolue et source de toute valeur. Le monde n'est donc pas sans valeur, puisqu'il est l'œuvre de Dieu. Et les choses d'ici-bas, valent à proportion de leur place dans la hiérarchie des êtres créés par lui. Au sommet de cette création, il y a l'homme fait à l'image de Dieu, le seul à reconnaître son œuvre. Dieu est valeur première et absolue, et l'homme est valeur seconde, mais bien réelle. Par conséquent, tous les hommes se valent par Dieu et devant Dieu, puisqu'ils sont tous également son œuvre. Voilà l'humanisme chrétien, ou humanisme théiste. C'est la position soutenue par Bartolomé de Las Casas, défenseur des Indiens, comme bien connu. C'est aussi, d'une certaine manière, la position de Montaigne lors des guerres de religion. Il continue d'inspirer une bonne partie des religions monothéistes, ce humanisme. En tout cas, voilà le premier conflit auquel donne lieu la naissance de l'humanisme. Et comme vous le voyez, il est interne au christianisme. On peut résumer cette première scène par le conflit suivant. Dieu ou l'homme ? Alors, ce dilemme est insoluble. Pourquoi ? D'un côté, le christianisme implique l'humanisme, puisque le Dieu des chrétiens existe, tous les hommes sont également son œuvre et l'humanisme est fondé. Très bien. Mais d'un autre côté, le christianisme, dira-t-on, exclut l'humanisme, puisque le Dieu des chrétiens existe, toute valeur vient de lui et l'humanité doit se borner à se soumettre à ses volontés impénétrables. Donc il y a là un dilemme qui, d'une certaine manière, ne peut pas être tranché, je crois, à l'intérieur du christianisme. Alors, passons à la scène 2. Ce que j'appelle le dilemme tragique du rationalisme. Humanisme ou nihilisme. La scène 2 des temps modernes commence lorsque, à mesure de ce qu'on appelle la sécularisation, c'est-à-dire la perte progressive du théocentrisme, le fait que valeurs religieuses ne sont les valeurs sacrées, la croyance que elles sont, les textes sacrés sont la seule source de valeur, commence à s'estomper à partir du XVIIe siècle et elle éclate, cette crise, au XVIIIe siècle avec les Lumières. C'est seconde modernité. Un humanisme non chrétien et même un humanisme sans Dieu devient possible. Alors que je vous rappelle, le premier était fondé sur l'égalité de tous les hommes en Dieu et par l'œuvre divine. Le christianisme s'était accommodé plus ou moins bien de l'humanisme, qui n'avait pas réussi à empêcher les massacres de la Saint-Barthélemy, l'extermination des Indiens ou la traite de dizaines de millions d'esclaves africains. La pensée humaniste avait tenté de se greffer sur la pensée chrétienne et même de se fonder sur l'universalisme chrétien. Tous les hommes sont égaux devant Dieu. Mais désormais, l'humanisme devra de plus en plus se défendre seul. Mais alors il courra un autre risque. Quel risque ? Le nihilisme. C'est la seconde scène de la modernité. L'homme est en effet peut-être seul. Il n'y a peut-être rien au-dessus. Et toute la scène tourne autour de ce peut-être. Dieu existe, peut-être, mais peut-être pas. Dès lors qu'il y a un peut-être pas, tout dans les esprits bascule. On doute. La révélation chrétienne est peut-être vraie, mais peut-être pas. Et si c'est le cas, il n'y a plus aucune source transcendante. Tout est donné ici-bas. Ce qui fait la force de ce deuxième âge de l'humanisme, c'est que l'homme est désormais la seule source de valeur. Mais c'est aussi ce qui fait sa faiblesse. Car c'est l'homme, ou rien. L'humanisme sans Dieu est cette fois menacé par le nihilisme. Qu'est-ce que j'attends par le nihilisme ? Le nihilisme, c'est l'idée, c'est la pensée que finalement, peut-être, il n'y a rien qui vaille. Parce qu'il n'y a pas de source ni de fondement aux valeurs. S'il n'y a pas d'au-delà, pas de maître tout-puissant, aucune autorité pour proclamer ce qui est respectable, saint, inviolable, sacré, tabou. S'il n'y a ni Dieu, ni diable, ni ciel, ni enfer, ni salut, ni damnation, ni saint, ni, comme dira Don Juan, le libertin chez Molière, ni loup-garou, comme persifle ce libertin, il n'y a rigoureusement dans ce cas-là rien d'obligatoire, ni rien d'absolument interdit, rien n'a de sens, rien n'a de but, tout est relatif, tout est variable, les règles humaines ne se suspendent à rien, les règles morales ne sont suspendues par rien, et les interdits sont, au fond, tout à fait relatifs. Tout est convention. Pascal, au grand siècle, au XVIIe siècle, avait pressenti ce nihilisme. Et d'ailleurs, cette question hante toute sa pensée. C'est un des auteurs que je lis avec le plus d'intérêt sans arrêt renouvelé. Qu'est-ce qui peut valoir ici-bas ? Tout ? Rien, peut-être. Certes, évidemment, pour Pascal, Dieu existe, c'est la seule valeur absolue. Nous sommes parfaitement d'accord là-dessus. Mais il nous demeure caché. Ses volontés, nul ne peut les entrevoir. Qui seront ses élus, nul ne peut le dire. Comment savoir ce qui est juste alors que tout branle ? Expression qu'il reprend à Montaigne. Ce qui est bon, s'il n'y a que des conventions. Ce qui est vrai, si ce qui est vrai d'un côté des Pyrénées devient faux, une erreur au-delà. Qu'est-ce qui peut valoir ici-bas ? Tout ou rien ? Pour Pascal, on échappe au nihilisme des libertins que par le pari chrétien. Comment résumer cette deuxième scène de la modernité ? Ça n'est plus, comme dans la première scène, Dieu ou l'homme, c'est l'homme ou rien. Ce second dilemme est aussi tragique et insoluble que le précédent. En effet, si d'un côté Dieu n'existe pas, seul l'homme est source de valeur, et l'humanisme est fondé. Mais d'un autre côté, si Dieu n'existe pas, le monde n'a pas de sens, tout est nécessaire ou tout est absurde, en tout cas rien n'a de valeur, pas plus l'homme qu'autre chose, et l'humanisme s'auto-réfute. Alors on ne peut pas néanmoins s'en tenir à ces alternatives, Dieu ou l'homme, l'homme ou rien. C'est là que de fait la sortie de la modernité a ouvert deux types de voies pour les deux sortes de concurrents de l'humanité, à l'ombre d'un Dieu en voie d'épuisement, du moins en Occident. C'est notre second acte de, que j'appelle le drame de la sortie des temps modernes. Il se déroule lui aussi en deux temps. Scène 1, l'homme qui désormais est seul et ses rivaux infra-humains. Cette scène commence au XIXe siècle et éclate au XXe siècle. Elle dit, cette voix, il n'y a pas de Dieu, ni ciel, ni vie post-mortem, toute valeur est humaine. Cela ne signifie pas que la valeur de l'humanité, cela ne signifie pas qu'il y a une valeur propre à l'humanité. Cela ne signifie plus le triomphe de l'humanisme. Car l'humanité a eu au XIXe et surtout au XXe siècle deux valeurs rivales, l'une et l'autre en deçà d'elle. Pour l'une comme pour l'autre, homme, humanité, universalité humaine, tout cela ne sont que des vains mots. C'est là que les voix divergent, les voix rivales divergent. D'un côté, en deçà de l'humanité, les vraies identités, c'est-à-dire ce qui fait de nous ce que nous sommes, c'est des races. C'est le discours de la pureté. On dira, dans cette idéologie-là, l'humanité n'a pas de nature propre. Tout dépend qui sont ces humains, qui ils sont, c'est-à-dire d'où ils viennent, quelle est leur provenance naturelle. L'humanité n'existe pas parce qu'elle est nulle part. Il n'y a pas d'homme en général. Il y a nous et il y a eux. Ce sont deux natures que tout oppose. Eux sont certes des animaux bipèdes, mais ils ne sont pas de vrais hommes. Ils ne sont pas blancs, ou ariens, ou chrétiens, ou turcs, ou han, ou hutu, ou musulmans, etc. Eux, ce sont des sous-hommes, lits de la terre, ils envahissent notre espace vital, contaminent l'air que nous respirons, sucent le sang qui coule dans nos veines et polluent le sol où nous avons nos racines immémoriales. Il faut donc absolument, c'est une question de vie ou de mort, les expulser de notre corps social, les déporter loin d'ici, les exterminer comme des poux ou des rats. En deçà de l'humanité qui n'existe pas, il y a bien des valeurs à défendre. Coûte que coûte. Toujours au bord du nihilisme. Sauver la civilisation blanche, ou la race aryenne, ou l'espace vital, ou que le monde s'écroule. Car l'humanisme mêle les races, confond les natures. Voilà l'ennemi. Cet anti-humanisme que l'on croyait enseveli dans la poubelle de l'histoire après la Seconde Guerre mondiale est en train de revenir dans tous les mouvements nationalistes, xénophobes, les tendances à l'épuration ethnique, ex-Yougoslavie, ou religieuses, chrétiens ou juifs d'Orient ou du Proche-Orient, anti-musulmanes en Birmanie ou en Inde, etc. C'est un renouveau de ce concept de race qui parfois prend des allures d'identité religieuse. Par opposition à la voie de la pureté naturelle, il y a eu une autre critique de l'humanisme au XXe siècle. C'est que les identités essentielles n'étaient pas l'identité humaine, ça n'était pas non plus l'identité des races, la comparaison a été souvent faite, c'est une identité de classe. L'humanité n'existe pas. Nul être humain n'est hors histoire ou hors classe. Tout dépend de qui sont ces humains. Qui ils sont, c'est-à-dire quelle est leur provenance sociale ou historique. Il n'y a pas d'hommes, disait-on. Il y a des bourgeois ou des prolétaires, des exploiteurs ou des exploités. Ce ne sont pas deux natures opposées. Ce sont deux classes en lutte immémoriale. En deçà de l'humanité, qui n'est qu'une vaine abstraction, il y a des valeurs absolues. La dictature, la victoire et la dictature du prolétariat, la victoire définitive du communisme, le sens de l'histoire, qui exige le sacrifice d'une génération ou l'élimination définitive, quoique interminable, de tous les ennemis de classe. Donc après la mort de Dieu, comme on a pu dire, le règne de l'homme ne fut donc pas le triomphe de l'homme. En tout cas, pas de l'homme comme valeur, et encore moins celui de l'égalité de tous les êtres humains, mais exactement le contraire. L'humanisme se heurtait, pendant tout le XXe siècle, à un adversaire encore plus redoutable que le nihilisme, non pas à l'idée que rien n'a de valeur, mais à l'idée que l'homme n'a pas d'existence, pas plus que Dieu. Ces voies alternatives, on le sait, ont mené au pire. Alors où en est-on aujourd'hui? Où en est la valeur homme au XXIe siècle, à la bourse des valeurs morales, comme dirait mon ami Paul Clavier? Qu'en est-il aujourd'hui de l'humanisme? Quels sont aujourd'hui ses rivaux? Ils ne sont plus, comme au siècle dernier, infra-humains, encore que. Ils sont surhumains. Un nouveau Dieu tout-puissant dans les mouvements religieux ou d'inspiration religieuse les plus radical, pouvant aller jusqu'au terrorisme, ou une nouvelle nature omnipotente. D'un côté, comme vous le savez, contre l'humanisme, il y a le risque d'un nouveau fanatisme religieux, non pas du tout un Dieu de justice aimant toutes ses créatures, non pas un Dieu permettant de fonder l'humanisme, comme au XVIe siècle, sur l'égalité de tous les êtres raisonnables, mais un maître absolu, au diktat irréfragable, un démiurge tout-puissant ordonnant à ses serviteurs de se sacrifier pour éliminer, assassiner, massacrer tous les mécréants. Rêve de pureté absolue qui renoue de façon religieuse avec les pires fantasmes raciaux du XXe siècle. Mais là où Dieu s'est en partie retiré, autrement dit dans nos contrées, qu'est-ce qui vaut donc? Et où en sommes-nous aujourd'hui au XXIe siècle? N'y a-t-il donc rien de sacré qui obligerait un respect absolu si Dieu n'existe pas et si l'homme, sa créature non plus? Mais il n'y a pas que d'homme dans la vie. Il n'y a pas que l'homme dans la nature. Il y a aussi la nature et il y a aussi la vie. Nouvelles idoles. Telle est donc la deuxième voie pour sauver la postmodernité du nihilisme. Elle est forcément plus prometteuse. Non pas l'homme, mais la nature. Non pas Dieu, mais la nature. Non pas l'homme, mais la vie. Alors, il y a plusieurs variantes de cette nouvelle idole. Là où Dieu s'est totalement éclipsé, on prétend aujourd'hui dépasser le nihilisme et l'humanisme par ce que j'appelle le naturocentrisme. L'acte d'accusation contre l'homme, désormais, est très lourd, et c'est pourquoi on condamne l'humanisme comme nous ayant mené à la perte absolue et au risque de dégradation complète de l'environnement naturel. On dit, et c'est en partie vrai, on ne peut plus être humaniste parce que l'humanisme, c'est l'anthropocentrisme. Or, Homo sapiens, c'est une espèce qui s'emploie à détruire les êtres vivants. C'est le superprédateur qui a assujetti toutes les autres espèces pour les mettre à son service, qui pollue son habitat, qui croît numériquement jusqu'à la démesure, qui a épuisé le sol et le sous-sol à force d'en extraire métaux et énergies fossiles pour servir ses conquêtes, dont la redoutable technique s'avère capable de faire exploser la planète, etc. Et, dit-on, il faut donc décentrer notre point de vue, rompre avec l'humanisme, qui est un autre nom de l'anthropocentrisme, et voici donc la nouvelle lutte de géants aujourd'hui, c'est l'homme ou la nature. Il y a de nombreuses variables. Il y en a deux que je vais rapidement passer en revue. Il y a d'abord le biocentrisme. Certains théoriciens de la nature défendent l'idée que disent d'ailleurs s'inspirer de religions orientales. Ce qui est sacré, ce n'est pas l'homme, c'est la vie. Ni Dieu ni l'homme, c'est la vie en tant que telle qui est sacrée, disent-ils, comme l'admettent, ajoutent-ils, depuis longtemps les grandes sagesses orientales. Alors pourtant, ça ne va pas de soi. Qu'est-ce que c'est qu'un vivant? Et par exemple un animal? Un animal, c'est un vivant, comme disent les biologistes, hétérotrophe, c'est-à-dire un être qui se nourrit de substances organiques, donc de végétaux ou d'animaux. Cela donc rend contradictoire l'idée de respect absolu de la vie ou de respect égal de toutes les formes de vie, puisqu'un animal ne peut vivre qu'en détruisant du vivant. Empêcher un animal d'empêcher la vie, c'est empêcher la sienne, c'est le tuer. La condition de la vie, c'est sa négation. La vie se nourrit sans cesse de la vie. Sacraliser la vie, c'est l'interdire. En tout cas, cela rend l'existence humaine impossible, si l'on en juge par les contorsions permanentes auxquelles doivent se livrer les sectateurs de la religion indienne qu'on appelle le jaïnisme, afin d'éviter d'écraser ou d'avaler par mégarde d'honorables moucherons. Ah, si ces sages savaient combien de millions d'êtres vivants invisibles, microbes, bactéries, micro-organismes de toutes sortes, microbiotes, tous essentiels à la vie des autres vivants et en particulier à la leur, ils sacrifient à chacun de leurs gestes ou de leurs soupirs. Et c'est pour le bien-être, sinon de la vie, du moins de certains vivants, par exemple eux-mêmes. Alors, on peut leur demander, est-ce que c'est vraiment la vie que vous voulez vouer un culte sacré? La vie comme force automatique, anonyme et indifférente aux êtres vivants? Mais la vie, qu'est-ce que c'est? C'est un processus aveugle qui ne cherche qu'à se maintenir sans cesse au détriment des vivants, à croître, à se développer, comment serait souhaitable ou même seulement possible, puisque la vie s'alimente sans cesse de la mort des êtres vivants. La meilleure image de la vie comme telle, je ne parle pas des vivants, de la dynamique perpétuelle et proliférante et mortifère de la vie, c'est le cancer. À défaut de la vie, ne sont donc pas plutôt les vivants qu'il faudrait respecter. Alors, il y a donc une deuxième variante qui est le naturocentrisme. Pour eux, ce qui nous a menés au bord du gouffre et des catastrophes écologiques qui nous menacent et qui menacent les générations à venir, je le répète, c'est qu'on a considéré la nature comme étant exploitable à l'infini pour servir nos besoins. Et en cela, ils ont raison. Mais est-ce pour cela qu'il faut en faire une nouvelle idole et déclarer que c'est elle et non pas les êtres humains qui ont une valeur intrinsèque? Alors, on pourra discuter la question suivante, la thèse suivante. Je ne pense pas qu'on puisse parler de valeur intrinsèque de la nature. Je pense que si la nature a une valeur, c'est parce qu'il faut l'œil de l'évaluateur, c'est-à-dire un œil humain, pour lui attribuer une valeur. Et c'est parce que il y a des êtres humains qui estiment que les équilibres naturels sont menacés et qu'ils menacent en particulier la vie, la survie, à la vie, les conditions de vie qu'on appelle la biosphère et la possibilité de vie des futures générations, que la nature a une valeur. Elle a une valeur si et seulement si des êtres humains lui attribuent une valeur en elle-même. Et on pourrait le dire, c'est un point que je ne vais pas développer trop, on pourra en discuter. Il n'y a pas de valeur si on retire de la nature l'œil de quelque être qui peut évaluer, c'est-à-dire l'être humain. Même si chaque espèce évalue son milieu à son échelle, même si chaque espèce animale valorise ce qui lui donne, valorise non pas d'une façon rationnelle, mais valorise par simple vie, ses conditions qui rendent possible sa propre vie, son eau, sa nourriture, mais l'ensemble de ces milieux ne s'additionne pas harmonieusement dans la nature, puisque ce qui sert la vie de l'un ou de telle espèce nuit à telle autre espèce. C'est la loi, hélas, de la vie, et c'est la loi, hélas, de la nature. Alors, dans tous les cas de figure, s'il y a une valeur que nous pouvons prêter à la nature, c'est la valeur que nous attribuons non pas seulement à l'humanité que nous formons aujourd'hui, mais à l'humanité que nous souhaitons former demain. Si l'humanité a une valeur absolue, la nature, elle, a une valeur relative à l'humanité, laquelle a donc le devoir absolu de défendre les équilibres écologiques, de sauvegarder la planète et de préserver la biosphère afin que l'humanité, non pas seulement présente, mais l'humanité et toute l'humanité à venir, demeure possible dans les meilleures conditions. Si et seulement si, c'est l'humanité qui est source de valeur. La valeur de la nature dépend de celle de l'homme. Si elle vaut, c'est par l'homme. Si elle vaut, c'est pour l'homme. Donc, nous revenons ici à l'humanisme. Et je crois que cette valeur suprême ne peut pas être la nature. Ça ne peut être que les conditions de l'environnement humain. De cela, nous pourrons discuter. Mais je voudrais terminer par une position qui devrait vous intéresser. Je pense que vous êtes tous de culture ou de religion chrétienne. Et c'est par la position qui me semble très étrange, en tout cas reste à interroger, la position du christianisme contemporain dans cette affaire, que j'appelle une voie moyenne entre biocentrisme et humanisme. Entre les deux voies principales qui ont été, pour se substituer au Dieu seule source de valeur, qui ont été l'homme pendant quelques siècles, et qui aujourd'hui sont en train d'être remplacée par une nouvelle valeur sacrée comme une nouvelle idole qui est la nature, le christianisme contemporain me semble choisir ou avoir choisi une voie moyenne. Étroite voie moyenne, consistant à accorder à la vie humaine la valeur absolue. Mais quand vous voyez l'expression vie humaine, vous entendez humaine, mais vous entendez vie aussi. C'est elle que suit aujourd'hui la dogmatique chrétienne. Cette voie hésitante, et je vais montrer pourquoi elle est hésitante, est encore dans l'esprit de la modernité. Ni foi humanisme complète, ni désabusement anti-humaniste. Pour le christianisme aujourd'hui, je crois, la seule valeur sacrée est devenue la vie humaine. Non pas la vie comme telle, comme dans certaines religions orientales, ni l'humanité promise au salut, comme dans sa propre tradition, mais la vie humaine. Non plus les humains, reconnus comme créatures singulières, en tant que personnes, possédant une âme, un libre arbitre, responsables de leurs actes, ainsi ouverts à la foi, à la possibilité du bien, voire à la contemplation béatifique du royaume de Dieu, en somme à tout ce qui, dans la tradition chrétienne, définissait l'humanité, depuis, je crois, Saint Paul jusqu'au moins au XIXe siècle. Mais la vie, au sens le plus biologique du terme. Un des effets de la modernité sur le christianisme est la sacralisation nouvelle et récente de la vie comme telle, même dans ce qu'elle comporte de moins évidemment humain, par exemple, la valeur absolue accordée à la vie pré-embryonnaire de l'ovocyte dès la conception. Cette théorie nouvelle depuis la fin du XIXe siècle, plus précisément depuis Pie IX, est un retournement de toute la dogmatique chrétienne de tradition thomiste, comme vous savez. La surprenante obsession de la prohibition de l'interruption de grossesse, qui est devenue un des grands dogmes contemporains du christianisme, et le marqueur principal des chrétiens du monde, en Amérique latine, en Afrique, en Asie, souvent au détriment de la vie et de l'existence des personnes, notamment des femmes, ainsi que la valeur absolue accordée à la survie végétative, même une fois la pensée, ce qu'on n'ose plus appeler l'âme, hélas, qui est irréversiblement détruite. C'est comme si l'Église, ou les Églises, étaient devenues matérialistes en faisant profession d'humanisme. L'humanisme tempéré ou biologisme modéré du christianisme est peut-être, sûrement, une forme de résistance au nihilisme. Mais parce qu'il n'est pas franchement humaniste, c'est-à-dire s'étendant exclusivement aux personnes en tant que telles, il me semble bien fragile pour nous protéger de la tentation nihiliste. Et je crois que c'est pourquoi il est aujourd'hui impuissant face à la concurrence d'autres valeurs, d'autres idoles, qui nient toute valeur à l'humanité comme telle. Je vous remercie de votre attention. Et ne croyez pas que cette conclusion soit pour moi dite dans un but polémique, mais toutes les
d'échanges.
Tous les échanges sont possibles.
Comment réagissez-vous à l'ensemble de l'exposé, à sa conclusion, qui peut remuer certains?
Bonsoir.
Bonsoir.
Juste une précision. Dans le premier tiers de votre présentation, oui, vous parliez de ce qui nous différenciait des Grecs avec le fait que nous étions plus situés entre les dieux et les bêtes. Vous avez parlé du véganisme, mais je pense que vous n'avez pas voulu, vous n'avez pas employé le mot, je pense que c'était antispécisme, peut-être que vous aviez en tête, peut-être plus précisément que véganisme.
Alors c'est, oui, c'est je réponds à cette question, vous avez tout à fait raison. J'ai écrit un livre qui s'appelle « Trois utopies contemporaines » que j'ai publié il y a 3 ans, et j'oppose en effet 2 utopies anti-humanistes qui sont d'un côté le transhumanisme post-humanisme, et d'un autre côté l'antispécisme. L'antispécisme, c'est-à-dire, c'est la négation même de l'humanisme, puisque l'humanisme est un spécisme. Si j'ai parlé de la mode véganisme, qui est normalement l'application pratique de la théorie antispéciste, hein. Mais comme cette mode confond bien des choses, le végétarisme, comme voilà, ou le welfarisme, c'est-à-dire le bien-être animal, bien sûr, vous avez tout à fait raison, et j'aurais dû dire l'antispécisme. Non, non, mais vous avez raison.
Bonsoir. J'ai le sentiment, en écoutant votre présentation, qu'il y a un léger paradoxe sur lequel j'aimerais bien que vous reveniez. C'est que d'un côté, vous dites que l'homme est l'évaluateur, c'est lui qui donne la valeur à la nature, et donc c'est lui aussi qui se donne une valeur absolue. Et d'un autre côté, vous semblez dire qu'il faudrait que, justement, c'est ça qui va fragiliser l'humanisme, en faisant en sorte que, finalement, s'il ne se donne pas la valeur absolue, s'il donne cette valeur à d'autres choses que lui, eh bien, il abîme l'humanisme. Alors, est-ce qu'il ne faudrait pas, pour défendre l'humanisme, qu'il y ait une valeur absolue dans l'humanité, indépendante de sa volonté ou pas de se donner la valeur?
Alors, madame, je vous remercie beaucoup de votre question, parce que c'est exactement la raison pour laquelle j'ai écrit ce livre dont parlait Jean-Michel. La raison, vous l'avez dite, c'est ce paradoxe que je dis à ma manière. L'humanisme universaliste, que j'ai défini par ces deux conditions initiales, l'humanité est source de valeur et tous les êtres humains ont une valeur égale, n'a plus de fondement aujourd'hui. Il a perdu son fondement spirituel, qui était une certaine interprétation de la révélation chrétienne, exprimée dans les textes de saint Paul, que j'appelle Paul, moi, de Tarse, bon, et qui, au fond, n'a jamais, sauf à un bref moment de l'humanisme chrétien, eu des conséquences réellement universalistes. Mais dès lors qu'il s'est estompé, c'est ça le grand drame, c'est ça que j'ai appelé la tragédie. La tragédie, c'est que la seule manière de fonder sur quelque chose de transcendant, c'était une révélation pour laquelle tous les êtres humains sont égaux. Ce serait la solution, mais qui n'est plus possible historiquement, pour de mille raisons, dont j'ai exposé certaines, et qui n'a été qu'un bref instant. Parce que, immédiatement, dès qu'est apparue l'idée d'humanisme chrétien, il a été soit en rivalité avec l'anti-humanisme, qui disait que toute valeur venant de Dieu, eh bien, seuls ceux qui l'avaient reconnu pouvaient se prévaloir de cette égalité, soit en but au rationalisme qui était lui-même devenu rapidement un relativisme. Que faire aujourd'hui? Essayer de retrouver un fondement possible à ces idées. L'humanité seule est source de valeur intrinsèque, est une valeur intrinsèque, et tous les êtres humains sont égaux. Alors la grande difficulté, c'est celle que vous avez dite, que je dirais d'une autre manière. Il faut trouver, est-ce qu'il est possible de trouver dans l'homme lui-même, dans l'être humain lui-même, dans la nature de l'être humain lui-même, la source de l'humanisme? Alors ça paraît difficile pour différentes raisons, dont l'une est philosophiquement assez connue, c'est que vous ne pouvez pas dériver une valeur d'un être. C'est-à-dire que vous pouvez décrire tant que vous voulez un être, vous ne pourrez pas en déduire sa valeur. Sa valeur, il faut que quelqu'un la lui donne. Alors, la solution que je propose dans ce livre, mais c'est le fruit de quelques centaines de pages, c'est de dire qu'il y a dans la nature de l'homme quelque chose qui le différencie de tous les autres êtres naturels. C'est ce qu'a dit tout à l'heure Jean-Michel en me présentant. C'est la raison, mais pas du tout la raison au sens de la faculté de raisonner, de déduire, mais de raisonner en dialoguant, c'est-à-dire la faculté de dire oui et non. Il y a beaucoup d'animaux qui ont des facultés d'expression de leurs émotions, il y a beaucoup d'animaux sociaux qui ont des facultés de communication, mais seul l'homme a un type de langage qui permet l'échange dialogué et par le fait que ce que vous affirmez, je peux le nier, ce que j'affirme, vous pouvez le nier. C'est-à-dire que nous pouvons échanger par ce que j'appelle la raison dialogique. Au contraire des machines qui raisonnent beaucoup mieux que nous, mais d'une façon que j'appelle monologique, c'est-à-dire elles déduisent, c'est pour ça qu'elles peuvent battre le champion du monde d'échecs. Au contraire de certains animaux évolués qui peuvent communiquer ou résoudre des problèmes d'intelligence, des situations nouvelles, chimpanzés, etc., mais qui n'ont aucune espèce, n'a cette faculté de raisonner en dialoguant. Qu'est-ce que c'est que raisonner en dialoguant ? Cela suppose, vous me parlez, je vous parle. Nous nous traitons de façon égale parce que je vous reconnais comme apte à dire des vérités et vous me reconnaissez comme apte à dire des vérités puisque vous pouvez me contredire. Puisque nous sommes reliés par le oui et le non, qui est une autre façon de dire le je et le tu. Et donc il existe la possibilité avec tout autre être humain sur Terre, y compris d'ailleurs aujourd'hui par les réseaux sociaux, d'avoir cette relation de réciprocité et d'égalité. Eh bien, réciprocité et égalité sont inscrits dans la nature de l'homme, et j'en déduis quelque chose qui est, mais pas de façon aussi simple, mais que c'est sur cette nature proprement humaine que l'on peut refonder aujourd'hui l'humanisme. Sur autre... Puisqu'il n'est plus possible de le fonder sur un Dieu créateur qui nous aurait fait tous égaux, parce que Dieu, c'est comme la nature, il prouve tout et son contraire. La manière dont on utilise Dieu, c'est tout et son contraire. Dieu nous a fait tous égaux, oui, mais l'autre pourra vous dire, mais justement, il s'est révélé à certains et pas à d'autres, et si vous ne l'avez pas reconnu, vous n'êtes pas égal. Bon, c'est ce que, de là les guerres de religion et tout ce qu'on veut. La nature, c'est pareil. Ah, mais nous sommes tous naturellement égaux. C'est ce qu'a tenté de faire le XVIIIe siècle. Déclaration des droits de l'homme. Tous les hommes naissent et demeurent naturellement égaux. D'accord, mais l'autre dira, oui, mais d'accord, la nature a fait des forts et des faibles. Donc, qu'est-ce que ça veut dire, cette histoire ? Si on se règle sur la nature, faudrait faire comme dans la nature. Les forts écrasent les faibles et les gros mangent les petits. Donc vous voyez, on ne peut pas fonder sur les valeurs absolues, qui sont Dieu ou la nature, l'humanité. En revanche, il y a en l'homme quelque chose qui, j'allais dire, dépasse l'homme et permet de fonder l'humanisme, c'est-à-dire la capacité qu'il a, et qu'il est le seul être à avoir, à pouvoir dire oui et non, et à pouvoir parler avec n'importe quel autre. Voilà, en gros, résumé ce que je veux dire.
Merci pour le caractère très, très stimulant de votre réflexion et la limpidité avec laquelle vous la déroulez. Je voudrais revenir au tout début, oui. L'acte 1, scène 1. Quand vous traitez des rapports... des rapports entre Dieu et l'homme dans le christianisme théocentrisme ou anthropocentrisme. Pour le dire un peu crûment, je me demande si vous ne passez pas là à côté de la spécificité du christianisme par rapport aux autres monothéismes. Dans le christianisme, semble-t-il, l'homme ne tire pas seulement sa dignité du fait d'être une créature de Dieu. Il y a quelque chose de beaucoup plus vertigineux dans le christianisme, ça s'appelle l'incarnation. C'est Dieu qui se fait homme, Dieu qui, en quelque sorte, fait de l'homme sa demeure. Donc, il me semble que ça complexifie de manière singulière le rapport entre Dieu et homme. Et d'ailleurs, ce n'est pas par hasard si à peu près... toutes les hérésies chrétiennes de l'Antiquité tardive
tournent autour de ça. Bien sûr, je suis d'accord. Je ne suis pas spécialiste de l'histoire du christianisme, mais, que faites-vous du baptême ? Que devient le baptême dans cette histoire ? Toute la controverse qu'on peut avoir à l'intérieur du christianisme pour savoir quels sont, comment doit-on traiter les Indiens, ça tournait autour de la question du baptême. Donc, je veux dire, il y a bien entendu quelque chose qui est propre au christianisme, qui est l'incarnation. Par parenthèse, sans vouloir encore une fois polémiquer, c'est ce que je regrette de ne plus trouver aujourd'hui clairement affirmé dans la manière dont se présente le christianisme. Pourquoi on ne parle plus d'âme ? Je trouve que c'est un très beau terme, l'âme. Pourquoi parle-t-on de la vie, par exemple ? C'est une forme d'animisme que je ne partage pas. Et tout cela pour dire que ce qui me paraît essentiel dans ce que vous avez dit à propos de l'incarnation, c'est que l'incarnation suppose la nature duelle de l'homme. Et la nature duelle de l'homme, en effet, implique d'une certaine manière, comme le disait Descartes, l'étroite union d'une âme et d'un corps. Alors, évidemment, dans le christianisme, ce n'est pas simplement une union métaphysique, comme dans la philosophie du XVIIe siècle, c'est aussi que le corps, il est le lieu du péché ou de la concupiscence, mais entre autres, pas forcément, mais en tout cas dans l'interprétation augustinienne, et que l'âme peut nous élever jusqu'à Dieu. Donc il y a un dualisme fondamental que je ne retrouve plus et qui permettrait au fond de définir et de distinguer l'homme de toutes les autres êtres vivants. Alors c'est cette ambiguïté qui était à mon avis aussi à l'origine des grandes controverses dans l'histoire du christianisme, et pas simplement lors des hérésies. Toute la question était de savoir ce que signifie l'incarnation, qui est au fond elle-même, qui a pu être interprétée comme une métaphore de la situation même de l'humanité partagée lui-même entre ces deux natures.
Merci pour ce bel exposé. Merci aussi pour vos travaux. Je me permets de dire à titre personnel que je vous lis depuis une vingtaine d'années, y compris votre livre sur la corrida, pour lequel j'ai eu le plaisir de vous interviewer pour le compte de Radio Fidélité il y a une douzaine d'années. Mais évidemment, ce n'est pas de cela que je vais vous parler. Pour faire transition avec l'intervention précédente, moi je considère que, je lis attentivement le discours de l'Église catholique, que la notion d'âme n'a pas disparu d'abord et qu'elle est probablement, pour une certaine part, remplacée par la notion de personne. Et donc, quand vous pointez que c'est la vie humaine qui est désormais, semble-t-il, prioritaire dans le discours magistériel, moi je lis la vie humaine au sens de cette relation duelle qui n'est pas un dualisme. C'est constamment une affirmation depuis au moins le Moyen-Âge que de dire que l'union de l'âme et du corps, c'est deux choses, mais c'est absolument indissoluble, au point que les chrétiens croient à la résurrection des corps. Donc on ne peut pas séparer les choses de cette façon. Mais par contre, le fait que l'être humain soit animé d'une particulière forme qui est précisément son âme, comme vous regrettez que on n'utilise plus le mot, et c'est vrai que c'est une pudeur, à mon avis, qu'on ne devrait pas avoir. Le fait qu'on n'utilise plus ce mot fait que c'est peut-être en effet la notion de vie humaine qui parle à nos contemporains, mais pas au sens vitaliste. Vous avez parlé de l'avortement, vous n'avez pas osé parler de l'euthanasie, mais je sais ce que vous en pensez puisque je vous lis, mais s'agissant de l'avortement, c'est quand même une constante depuis les débuts du christianisme.
Depuis
le début du christianisme. C'est une constante. Dans l'épître à Dionette, à quoi on reconnaît les chrétiens ? À plusieurs choses, dont le fait que c'est la seule espèce qui pose des questions sur la vie commençante. Alors bien sûr, il y a eu une évolution concernant l'embryologie, parce que ça n'est pas la même chez les pères de l'Église, ça n'est pas la même chez saint Thomas d'Aquin, c'est pas la même au fur et à mesure que la science évolue. On sait bien que cette question est compliquée, si bien que l'Église prudemment a toujours, mais sans aucune ambiguïté, et c'est là qu'à mon avis vous irez un peu vite en besogne, condamné ce qu'elle appelle l'homicide, mais ce qu'elle n'a pas toujours appelé l'homicide, parce qu'elle peut parler du féticide, depuis les commencements de la réflexion sur ces questions. Quand vous dites que c'est depuis l'ovocyte, non, c'est pas l'ovocyte. L'ovocyte, c'est simplement l'ovule
non,
féminin.
J'ai pas dit que c'est depuis l'ovocyte.
Vous l'avez dit, mais vous l'avez écrit en plus.
Donc, on peut parler de ça, oui. Allez-y.
Si, c'est le mot ovocyte que vous avez utilisé tout à l'heure, mais c'est pas un reproche que je vous fais. Simplement, je fais remarquer que c'est un gamète et que c'est le moment de la fusion des gamètes qui dure une trentaine d'heures au demeurant, qui est considéré classiquement désormais avec
mais
la science.
Mais c'est pas le début de la vie, ça. Les deux gamètes.
De la vie humaine.
Vivants.
De la vie humaine. La vie humaine, une vie humaine.
C'est pas la vie d'une personne, en tout cas, ça n'est pas la conception qui a prévalu jusqu'en 1869, qui
c'est
était
vrai.
La tradition thomiste de l'animation médiate.
Oui, oui, mais bien sûr, mais l'animation n'est pas la question centrale dans l'avortement. Enfin, je ne vais pas vous entreprendre là-dessus parce que ce serait un petit peu technique et je crois qu'on prendrait beaucoup trop de temps. Mais ce n'est pas la question de l'animation médiate ou immédiate, c'est le fait que dès lors qu'un être humain va advenir, une âme va être infusée dans un corps, quel que soit ce moment, il faut faire attention. Voilà, c'est tout. J'observe d'ailleurs que dans le discours officiel, magistériel d'aujourd'hui, on ne parle pas de l'embryon comme d'une personne humaine. On en parle, on dit simplement qu'il faut le traiter comme si c'était une personne.
Oui, il y a eu la notion de personne potentielle, etc.
Non, ça, c'est pas chrétien, ça.
Non, je sais que c'est pas chrétien, ça a été repris par... par des chrétiens pour justifier.
Oui,
non,
mais en tout cas certainement pas par le magistère. Je fais la distinction, mais c'est pas du tout parce que je suis du côté du magistère, c'est parce que je veux essayer d'être rigoureux avec les choses telles qu'elles se présentent. Donc ce que je veux dire, c'est que la vie humaine, c'est la vie d'une personne humaine dont nous ne savons pas fixer avec certitude le moment. Et donc c'est pour ça qu'il y a une prudence qui est observée. S'agissant de l'autre extrémité de la vie, dont vous n'avez pas parlé ici.
Si, j'en ai dit un mot. Survie végétative.
Mais vous avez lu, oui, sur la fin de la vie. Il se trouve, je vous le dis au passant, j'ai été auditionné par le Parlement sur ces questions il y a déjà très longtemps. Et je me souviens de mon voisin musulman qui avait fait remarquer à Comtesse-Pontville que c'était l'Église catholique qui, la première au XXe siècle, avait dit avec insistance deux choses. Premièrement, il ne faut pas prolonger les existences qui commencent à s'arrêter, qui commencent à arriver à leur terme. Il faut savoir ne pas faire d'obstination déraisonnable. 30 ans, 40 ans, 50 ans avant la loi Leonetti, c'est ce que le pape Pie XII avait déjà dit. Et pourtant, il n'était pas spécialement, laxiste en matière de morale. Et puis deuxièmement, le même pape avait dit, et nous avons attendu là aussi bien longtemps pour le mettre en œuvre, que lorsque une personne était atteinte d'un mal incurable et en phase terminale, il était prioritaire de soulager sa souffrance et il avait ajouté « même si ça devait entraîner l'abrégement des jours ». Tout ça ne milite pas pour un vitalisme chrétien, au contraire, ça milite pour un respect de la personne humaine, y compris quand elle arrive à son terme. C'est un petit peu des nuances que je me proposais de vous apporter.
Alors, je vous remercie de ces précisions qui sont en effet essentielles. Je me promène beaucoup en Amérique latine et en Argentine récemment, au Brésil, etc. Et il me semble que le seul marqueur du christianisme est devenu celui-ci. Je ne connais pas d'autre message universel. Voilà ce que je voulais. Voilà le trouble dont je voulais vous faire part. C'est devenu le marqueur essentiel d'une façon que j'interprète, peut-être à tort, comme une façon de concéder quelque chose à la modernité et à la génétique. On ne dit pas vraiment qu'un être humain se réduit à ses gènes, mais on fait comme si. Et je dis, la question traditionnelle dans toute l'histoire de l'Église de savoir quand commence la personne, et vous savez que dans la question de l'animation médiate, la question de l'interruption avant 3 mois était considérée par les pères de l'Église comme non criminelle. Mais peu importe, il y a quelque chose comme une façon de concéder au vitalisme génétique quelque chose qui me gêne au détriment de ce que nous savons être une personne, la plupart du temps. Quand je vois, je ne parle pas personne, je ne veux pas polémiquer là-dessus, mais personne ne soutient que l'IVG est une bonne chose. Pas moi, en tout cas. La question est de savoir où il y a plus de personnes. Il y a incontestablement plus de personnes dans une femme ou une jeune fille qui souffre, pour diverses raisons, que dans une vie pré-embryonnaire. Voilà ce que je pense, au moins, puisque vous avez pris l'exemple de la fin de vie, que vous avez pris des positions qui sont celles assez proches de mon ami André Comte-Sponville, qui lui est président d'honneur de l'association pour mourir dans la dignité. Et vous avez dit même que c'était une position antérieure à la loi Leonetti, ce que je suis content de vous entendre. Voilà, c'est simplement ça que je vous ai dit. Et l'interprétation que j'en donne, c'est qu'au lieu de parler d'âme, on parle de vie. Or, j'allais vous dire, d'ailleurs, il y a un hebdomadaire qui s'appelle comme ça, La Vie. La vie, j'aime pas trop la vie. J'aime pas trop la sacralisation de la vie. Ce que j'aime bien, c'est les vivants. Et la sacralisation de la vie me paraît toujours extrêmement dangereuse parce qu'elle sacralise quelque chose qui, comme vous le savez sur le plan génétique, c'est la préservation de la transmission des gènes. Voilà ce que c'est que la vie, la sale loi de la vie. Et donc tout ce qui ressemble à une sacralisation de la vie me semble fait en général au détriment des personnes qui sont des personnes avec qui l'échange, la réalité humaine, ou même une personne comme un enfant avec qui que nous éduquons, que nous aimons, que nous attendons comme tel. Voilà. Donc c'est tout ce que je veux dire, mais encore une fois, je ne prétends pas du tout connaître l'histoire, cette histoire, mais voilà, je vous dis, je me promène en Amérique latine et je vois que ça se réduit souvent à ça et ça me désole. Voilà.
Est-ce qu'il n'y a pas un privilège donné à certaines formes du christianisme aux dépens d'autres qui existent et qui défendent des thèses très différentes?
Mais pourquoi? Pourquoi est-ce devenu, paradoxalement depuis Humane Vitae, qui devait être un moment où l'Église, voilà, Vatican II, où ça devait être un moment d'ouverture de l'Église, je trouve que ça a été une façon, d'une certaine manière, parce qu'on a renoué au moment d'Humane Vitae avec les décisions du pape de 1869, Et c'est cela qui a inspiré tous ces mouvements qui n'ont cessé de se développer depuis, avec cette obsession universelle de l'IVG comme étant qui est devenu le dogme central, en tout cas le marqueur essentiel. Bon, mais je me trompe sûrement.
Est-ce que plutôt que de se battre sur des questions d'histoire ou d'interprétation de mouvements contemporains, est-ce qu'on ne pourrait pas revenir à une interprétation sur laquelle on serait peut-être beaucoup plus d'accord? Dans votre défense de l'humanisme, si je peux dire un peu plus que ce que vous avez dit, parce que vous avez très rapidement... on se tutoie, c'est vrai. très rapidement...
Par définition, puisqu'on dialogue.
On se tutoie. Définit le... le fondement de la vie morale comme étant basé sur la reconnaissance de l'égalité et sur la possibilité de réciprocité constante, tu le présentes comme une expérience de pensée. Parce que en fait, il y a des tas d'hommes avec lesquels il est impossible de parler, il y a des tas de personnes avec qui il n'y a pas de reconnaissance de réciprocité effective, et donc il faut se baser sur une expérience de pensée qui dit que l'être humain, par définition, est quelqu'un que l'on postule comme étant son égal et quelqu'un avec qui on peut être en interlocution. Et c'est à partir de cette expérience de pensée qui définit un homme, j'allais dire théorique, un homme, c'est ni théorique ni empirique, ce serait peut-être une autre question dans notre débat par rapport à ce que tu as écrit, on extrapole à partir de cette expérience de pensée pour quelque chose qui vaut pour tout être humain, y compris quelqu'un avec lequel on n'arrive pas à discuter parce qu'il est borné, parce que et on n'a pas les mêmes points ou bien parce même que, oui. avec quelqu'un qui ne sait pas vraiment utiliser le langage parce qu'il a des difficultés, et j'allais dire quelqu'un qui ne sait plus utiliser le langage, mais que j'estime néanmoins comme un être qui a été capable d'utiliser le langage, même si actuellement il n'est plus capable. Et je rejoins là la question de que Jacques Ricot posait, avec quelqu'un que j'ai à respecter parce qu'il est un être de dialogue non plus effectif, mais ni non plus en puissance, au sens où puissance future, mais en puissance passée, j'allais dire, si c'est le mot a un sens. Ou également avec un être en devenir, un embryon, qui va être quelqu'un que j'estime en dialogue. C'est ça ma question. Est-ce que, à partir du moment où tu estimes que l'interlocution et l'égalité est postulée par principe, puis étendue à tout être humain, les limites de cette postulation sont assez difficiles à définir, mais en tout cas, elles doivent inclure, me semble-t-il, et c'est comme ça que je comprends ma foi, y compris à des êtres en puissance embryonnaire. La question n'est pas celle de définir. Et je crois que si on se bagarre sur la question précise du moment où il y a être humain ou pas, on entre dans des questions qui effectivement sont biologiques et qui ne concernent pas directement la foi, mais on doit postuler un respect à l'égard d'un être en puissance, qu'il soit au début de l'existence ou en fin de l'existence, selon tes principes même.
Alors, je te remercie de faire revenir la discussion sur un point central. En effet, l'être humain est défini dans sa nature comme un être capable d'accéder au dialogue, à la possibilité, et ça s'étend, y compris, évidemment, à... pour prendre un exemple important, des personnes lourdement handicapées, évidemment. Pourquoi ? C'est une objection qui est très forte. Je prendrai ça qui n'est pas polémique, ni la fin de vie, ni le début de vie. Il y a en effet quelque chose dans le rapport que nous avons avec une communauté humaine potentiel, y compris chez une personne lourdement handicapée, qui n'a pas accès à la possibilité du dialogue. Nous lui reconnaissons l'humanité, nous lui reconnaissons donc une dignité intrinsèque, nous lui reconnaissons la qualité de personne, exactement, j'allais dire, comme je peux très bien définir l'être humain, selon une définition traditionnelle, comme un animal bipède, est considéré qu'un cul-de-jatte est un être humain. Bon, exactement pour les mêmes raisons. C'est-à-dire qu'il a tous les caractères de l'humanité parce qu'il a été attendu comme un être humain, aimé comme un être humain, que sa place réservée était celle qui manquait à la famille humaine, et par conséquent, toutes les formes d'échange que nous pouvons avec lui, même s'il n'est pas capable d'une stricte réciprocité, font que nous lui reconnaissons une pleine et entière dignité. Donc, tu as tout à fait raison. La définition que je donne de l'humanité, c'est sa définition théorique, ce qui fait l'essence de l'humain. Maintenant, cette humanité, elle est plus ou moins... réalisé empiriquement. C'est pour ça que, et tu as bien fait d'insister, je dis pour le savoir, faisons l'expérience de pensée. Et l'expérience de pensée, tu n'en as pas parlé, mais je vais la dire en deux mots. Définissons-nous, nous tous, par cette faculté humaine qui est la faculté de raison dialogique, ce que j'appelle la raison dialogique. Éliminons tout ce que nous savons par ailleurs de nous. Nous sommes, nous n'avons pas d'identité, nous sommes ni blancs ni noirs, ni hommes ni femmes. Nous ne savons rien de notre caractère, nous ne savons pas si nous sommes égoïstes ou altruistes, nous ne savons rien de notre religion, etc., etc., etc. Nous ne savons pas non plus rien de notre vulnérabilité. Oui, j'ai conscience qu'il va bientôt falloir que j'aille prendre mon train. Nous ne savons rien de notre vulnérabilité, mais nous imaginons que nous sommes en train de discuter avec cette humanité imaginaire de ce que c'est que doit être notre l'éthique que nous devons respecter pour vivre ensemble. Eh bien, j'essaie de démontrer que cette éthique serait définie par une éthique de l'égalité, une éthique de la réciprocité. Autrement dit, je m'engage à ne pas nuire à autrui si tout le monde s'engage à en faire autant, et je m'engage à aider les autres puisque je ne sais pas qui je serai, je ne sais pas si je serai vulnérable, je ne sais pas si je serai fort ou faible, je ne sais pas si je serai handicapé ou non, mais puisque j'aurais pu être handicapé, puisque je pourrais l'être, je reconnais à tout être qui fait partie de cette communauté imaginaire qui représente ce que j'entends par mon expérience de pensée, une stricte égalité. Voilà, c'est comme ça que je résous ce problème qui est un problème classique et ô combien difficile, de cette communauté imaginaire. Est-ce que ça s'applique à l'embryon? Nous laisserons cette question très polémique de côté parce que je ne voudrais pas que mon propos soit réduit à cela. Voilà, je vous remercie.
Merci de votre présence. Merci infiniment d'avoir accepté de passer la soirée avec nous.
C'était un plaisir.
C'est une discussion, les positions sont diverses. Je pense que c'est la fonction du passage de montrer qu'il y a sur l'existence différentes conceptions. Merci à vous. Il est possible qu'on vous demande de participer aux frais de la maison en sortant. C'est une façon de montrer que ce que nous faisons n'est pas inutile. Bonne soirée.
Oui. Pardon ? Oui. Oui, c'est vrai, vous avez raison. Enfin, ça dépend des périodes de... Oui, oui. Ben, va perdre de son importance. Le problème, c'est que c'est souvent dans les pays où on aurait le plus besoin de solidarité et de... que... Tout à fait, tout à fait. Et ça, je reconnais que ça pourrait et ça devrait être le fondement du message. De sa... Paul de Tarse, c'est le premier universaliste. Ben bien sûr. Bien sûr, je lis Paul de Tarse. C'est vrai.